Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une série d'articles qui nous viennent de Radio Tam Tam Africa. La revue de presse est datée du 15 décembre 2025. C'est un média panafricain indépendant basé en France. Et leur approche, elle est intéressante. Ils cherchent vraiment à décrypter l'actualité du continent, loin des grands titres habituels, quoi. En donnant la parole à des gens qu'on n'entend pas souvent. Et en lisant leurs dépêches, on s'est rendu compte qu'elles racontent une histoire plus large. Celle d'un continent où la stabilité, en fait, elle est disputée sur, on pourrait dire, trois fronts. D'abord, le front humanitaire, là où l'État s'effondre, comme on va le voir au Soudan. Ensuite, il y a le front politique, où des citoyens, eux, se lèvent pour défendre leur vision de la démocratie. C'est le cas en Afrique de l'Ouest. Et puis, enfin, le front judiciaire, où la justice internationale tente de rattraper les fantômes de conflits qui s'éteignent jamais vraiment. La question qui traverse tout ça, c'est qui a encore le pouvoir de ramener l'ordre ?
C'est exactement ça. On n'est pas face à un chaos généralisé, mais plutôt à une série de leads. Et ce qui est fascinant, c'est de voir qui vient combler ces vides. Parfois, ce sont des seigneurs de guerre, parfois des organisations humanitaires qui doivent négocier leur survie. D'autres fois, c'est des influenceurs sur les réseaux sociaux, et même des juges à des milliers de kilomètres de là. C'est cette mosaïque d'acteurs qui luttent pour le contrôle que les sources nous permettent d'analyser.
Alors commençons par ce premier front, le plus brutal peut-être, l'effondrement humanitaire au Soudan. La nouvelle la plus directe, c'est la mort de 6 casques bleus.
Oui, tout à fait. 6 soldats bangladais de la force de l'ONU, la FISNUA. Ils ont été tués dans une attaque de drone le 13 décembre à Kadougli. C'est dans le Kordofan Sud.
Le secrétaire général de l'ONU a parlé d'une attaque horrible.
Oui, et le gouvernement soudanais, lui, accuse directement les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR.
Ce sont eux qui assiègent la ville depuis un moment, c'est ça?
Depuis un an et demi.
D'accord. Et pourquoi cette ville, Kadougli, elle est si stratégique? Pourquoi autant de violence à cet endroit précis?
Alors, Kadougli, c'est un carrefour vital. C'est la capitale du Kordofan Sud, une région qui est riche en pétrole et qui se situe à la jonction entre le Darfour, à l'ouest, et le reste du Soudan.
Ah oui, je vois.
Donc, contrôler Kadougli, c'est contrôler les flux, les ressources, et c'est une porte d'entrée vers d'autres territoires. C'est pour ça que le siège des FSR est si acharné.
Et il y a autre chose?
Oui. Il faut ajouter à ce tableau militaire une autre donnée qui est glaçante. C'est dans cette région que l'ONU a officiellement déclaré l'état de famine.
La guerre et la faim, donc.
Exactement. Ce sont les deux mâchoires du même étau qui est en train de broyer la population.
Et cette situation catastrophique, ce n'est pas un cas isolé, j'imagine. Les articles parlent aussi d'El-Fasher, au Darfour. La situation là-bas serait plus qu'horrible selon le Programme alimentaire mondial.
C'est un autre point de rupture, oui. On parle de 70 000 à 5 000 personnes prises au piège dans la ville.
Et la ville est contrôlée par les FSR aussi?
Oui, maintenant elle l'est. Et la famine y est aussi confirmée.
Les gens ne peuvent pas partir?
Non, c'est presque impossible. Soit les transports sont à des prix exorbitants, soit ils risquent d'être rançonnés en chemin. C'est une prison à ciel ouvert, en fait.
C'est terrible. Et au milieu de ce désastre, les sources mentionnent quand même une lueur d'espoir, même si elle est très mince. Un accord de principe entre le Programme alimentaire mondial et les FSR pour essayer d'entrer dans la ville. Ça paraît fou, non? De devoir négocier avec ceux qui organisent le siège?
C'est toute la complexité et le paradoxe tragique de l'action humanitaire. Pour sauver les victimes, il faut parler aux bourreaux.
C'est un pari risqué.
C'est un jeu d'équilibriste, oui. Obtenir un accord de principe avec un groupe armé comme les FSR, c'est fragile. Ça peut être révoqué à n'importe quel moment. Et ça ne garantit absolument pas la sécurité des convois.
Mais c'est la seule option.
Dans une situation aussi désespérée, c'est souvent la seule carte qui reste à jouer, oui. C'est un pari où la mise, c'est la vie de milliers de personnes.
Ce chaos au Soudan a forcément des répercussions sur les voisins. On sent que les plaques tectoniques diplomatiques bougent. Je pense notamment à l'Érythrée, qui claque la porte d'une organisation régionale.
Ah oui, c'est une conséquence directe. L'Érythrée a annoncé son retrait de l'IGAD, c'est le bloc régional d'Afrique de l'Est.
2 ans à peine après l'avoir réintégré?
Exactement. La raison officielle, c'est que l'organisation serait, je cite, « inefficace ». Mais la réalité est bien sûr beaucoup plus complexe. L'Érythrée qui quitte l'IGAD, c'est un peu comme un membre d'une association de propriétaires qui démissionne en disant que les réunions sont inutiles.
Alors qu'en fait, il est en plein conflit de voisinage avec tout le monde.
C'est exactement ça. Le conflit de voisinage, ici, c'est le Soudan.
Expliquez-nous ça.
Le conflit soudanais est devenu une sorte de guerre par procuration. L'Érythrée est alignée sur l'Égypte, qui soutient l'armée soudanaise. et en face, d'autres poids lourds de l'IGAD, comme le Kenya ou l'Éthiopie, ont des positions, disons, plus ambiguës, voire un soutien discret au FSR.
Donc l'IGAD est paralysée ?
Totalement. Elle est paralysée par ses divisions. Le retrait de l'Érythrée, c'est l'aveu que le conflit soudanais a fait imploser la diplomatie régionale.
D'accord. Passons d'un État qui s'effondre à une région où justement des citoyens se battent pour que leur État ne s'effondre pas, en Afrique de l'Ouest. La question des coups d'État était au centre d'un sommet de la CEDEAO.
Oui, à Abuja, l'ambiance était assez tendue. Il y avait deux événements récents sur la table. D'un côté, le putsch qui a réussi en Guinée-Bissau fin novembre. De l'autre, la tentative de coup d'État qui a échoué au Bénin le 7 décembre.
Et la CEDEAO essaie de montrer les muscles.
Elle essaye, oui. On a des menaces de sanctions ciblées pour la Guinée-Bissau. Et pour le Bénin, il y a ce projet de renforcer sa force en attente pour intervenir plus vite.
Avec des soldats d'autres pays. Peut-être avec des contingents de Sierra Leone ou du Ghana, oui.
Ce qui m'a vraiment, vraiment frappé dans les articles sur le Bénin, c'est la réaction des jeunes. On a tellement l'habitude de voir des images de foules qui applaudissent les putschistes dans certains pays du Sahel. Et là, c'est l'inverse total. Des centaines de jeunes dans la rue à Cotonou pour dire non. Qu'est-ce qui rend le Bénin si différent à ce moment-là?
C'est un contre-récit absolument fondamental. Et les sources citent des paroles très fortes. Un jeune entrepreneur qui dit
« Le pouvoir doit être conquis par les élections ».
C'est clair.
Ou un autre très influent sur les réseaux sociaux qui rappelle que les régimes militaires passés ont fait prendre au pays un recul de 30 ans. Ce n'est pas une simple manifestation, c'est une affirmation politique.
Il y a une mémoire, donc.
Oui, ça montre qu'il existe une mémoire collective des ravages des dictatures et une culture démocratique peut-être plus ancrée qu'on ne le pense, qui pousse une partie de la société civile à se mobiliser.
C'est une image forte, c'est certain, mais est-ce qu'on ne risque pas d'idéaliser un peu cette manifestation? Je veux dire, est-ce que c'est un vrai mouvement de fond ou une réaction ponctuelle de la jeunesse urbaine, connectée, de Cotonou, qui ne représente pas forcément le reste du pays?
C'est une excellente question. Et il faut se garder de toute généralisation hâtive. Bien sûr, Cotonou n'est pas le Bénin. Mais même si ce mouvement est pour l'instant circonscrit à la capitale et à une certaine frange de la population, son importance symbolique, elle, est immense.
En quoi ?
Dans une région où la vague de putsch semblait inarrêtable, où le discours antidémocratique gagnait du terrain, cette mobilisation crée une brèche. Elle prouve que le narratif du putsch libérateur, c'est pas une fatalité. Et qu'une alternative, celle de la stabilité constitutionnelle, a encore des défenseurs prêts à descendre dans la rue.
Et au milieu de tout ça, il y a cet acteur, complètement inclassable. L'influenceur Kémi Séba. Il est visé par un mandat d'arrêt international du Bénin. Le jour du putsch avorté, il avait salué le jour de la libération. Quel est son rôle exact? C'est le cerveau de l'opération ou juste un haut-parleur?
C'est bien plus qu'un simple haut-parleur. Son cas est emblématique d'un nouveau type d'acteur géopolitique qu'on voit émerger. Ce n'est plus un simple militant. C'est ce qu'on pourrait appeler un influenceur diplomate.
Influenceur diplomate, c'est intéressant, hein?
Oui, il opère à la croisée de plusieurs mondes. Le numérique, avec son 1,5 million d'abonnés, le panafricanisme radical, avec un discours très anti-occidental, et puis les nouvelles alliances géopolitiques qui se dessinent.
Le fait qu'il ait un passeport diplomatique du Niger, ce n'est pas anodin, j'imagine.
Pas du tout. Ça le connecte directement à l'Alliance des États du Sahel. Ces régimes militaires qui ont tourné le dos à la France et se sont rapprochés de Moscou. Kémi Séba, ce n'est pas un loup solitaire. Il incarne une forme de pouvoir d'influence, une sorte de soft power radical qui utilise la puissance des réseaux sociaux pour déstabiliser des régimes jugés trop proches de l'Occident.
C'est d'une forme de guerre hybride, en somme.
Exactement. Et les diplomaties traditionnelles peinent encore à comprendre comment contrer ça.
Cette idée de voix qui se font entendre ou, au contraire, qui sont étouffées, ça nous amène directement sur notre troisième front. Dans la région des Grands Lacs, en République démocratique du Congo, là, la violence sur le terrain force des acteurs humanitaires comme Médecins sans frontières à se taire et à partir.
C'est l'exemple le plus concret de l'impact de la guerre sur les civils. MSF a dû arrêter en urgence ses activités à Baraka, au sud Kivu.
Il devait y rester longtemps, non?
Oui, il devait rester jusqu'en 2026, mais l'avancée du groupe armé M23 et la chute de la ville voisine d'Uvira ont rendu la situation intenable.
Et pour bien mesurer ce que ça veut dire, leur départ?
Entre août et décembre, MSF a traité plus de 25 000 cas de paludisme dans cette zone.
25 000?
Leur départ, c'est une condamnation à mort pour des milliers de personnes qui n'auront plus accès à des soins de base. c'est la création d'un désert humanitaire.
C'est terrifiant. Et pendant que sur le terrain, la violence semble gagner, il y a cette bataille incroyable qui se joue à des milliers de kilomètres, à Paris. Le procès de l'ex-chef de guerre Roger Lumbala. Expliquez-nous pourquoi les sources le qualifient d'historique. Compétence universelle.
C'est l'idée que certains crimes, génocides, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, sont si graves qu'ils offensent l'humanité tout entière. Par conséquent, n'importe quel État peut les juger, peu importe où ils ont été commis et quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes.
Donc ici, la France juge un Congolais pour des crimes commis en RDC il y a plus de 20 ans.
C'est ça, c'est un message très fort contre l'impunité.
Le signal le plus fort possible même.
Oui, dans une région comme l'Est de la RDC, où l'impunité est la règle depuis des décennies. Ce procès dit que la justice peut finir par vous rattraper, même 20 ans après, même à l'autre bout du monde. Les faits reprochés sont d'une brutalité sans nom, viol de masse, esclavage sexuel, cannibalisme, commis lors d'une opération au nom qui dit tout. Effacer le tableau.
C'est glaçant.
Ce procès, c'est une tentative de repeindre un peu de dignité sur ce tableau qui a été effacé par la barbarie.
Et cette impunité sur le terrain, elle a des conséquences directes. Les premières victimes sont souvent les plus vulnérables. Ce qui se passe au Nigeria, rapporté aussi par Radio Tam Tam, c'est une autre facette de cette tragédie.
Oui, le fléau des enlèvements de masse d'enfants. Les sources nous donnent une nouvelle un peu douce amère. La bonne nouvelle, 100 enfants enlevés dans une école catholique ont été libérés.
Et la mauvaise ?
La mauvaise ambiance. Plus de 200 autres élèves sont toujours otages dans la brousse depuis fin novembre.
On a des témoignages ?
Oui, les témoignages des enfants libérés sont insoutenables. Ils parlent de conditions de captivité terribles. Et parmi ceux qui restent, certains n'ont que 5 ou 6 ans.
Ce n'est pas juste un fait divers.
Non, bien sûr que non. C'est une stratégie de terreur. Une stratégie qui paralyse des régions entières, qui détruit l'éducation et qui laisse des traumatismes psychologiques qui marqueront plusieurs générations. C'est une crise humanitaire silencieuse et chronique.
Alors, si on essaye de relier tous ces points, qu'est-ce que ce tour d'horizon nous apprend ? On a vu le portrait d'un continent traversé par des forces contradictoires. D'un côté, la violence brute, l'effondrement de l'État au Soudan ou en RDC. De l'autre, une vitalité citoyenne impressionnante au Bénin et cette quête obstinée de justice à Paris.
Ce qui est marquant, c'est cette lutte permanente pour le contrôle du narratif et du territoire. Quand l'État se retire ou s'effondre, un vide se crée. Et la question que posent tous ces articles, c'est qui remplit ce vide ?
Oui.
Au Soudan, ce sont les milices. En RDC, ce sont les groupes armés, mais aussi, à très long terme, la justice internationale. En Afrique de l'Ouest, ce sont les putschistes, mais on voit que la société civile tente de leur contester cet espace. Les sources de Radio Tam Tam Africa nous montrent que rien n'est joué. Chaque crise est un champ de bataille où s'affrontent des visions radicalement différentes de l'avenir.
Et dans tous ces récits, on a constamment mentionné l'ONU, la CDAO, l'IGAD, toutes ces grandes institutions. Ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question un peu vertigineuse pour finir.
Exactement. Face à ces crises multiples, profondes, interconnectées, on voit que ces grandes organisations régionales et internationales semblent souvent en réaction, toujours un pas derrière les événements.
Elles condamnent, elles menacent.
Mais leur capacité à vraiment changer la donne sur le terrain paraît limitée. La vraie question que posent implicitement ces articles, c'est « La solution viendra-t-elle d'en haut, de ces grandes institutions qui peinent à s'imposer ?»
Ou alors ?
Ou est-ce qu'elle émergera d'en bas ? De la résilience de ces jeunes manifestants béninois, du courage des humanitaires, ou de la patience infinie de ceux qui se battent pour que justice soit rendue, même si ça doit prendre des décennies ?